Un Anglais ayant besoin d'un pantalon rayé en vitesse pour les fêtes de fin d'année se rend chez son tailleur qui lui prend ses mesures. Et voilà qui est fait. Revenez dans 4 jours, il sera prêt. Bon. 4 jours plus tard. Sorry. Revenez dans 8 jours, j'ai raté le fond. Bon, ça va. Le fond, c'est pas commode. 8 jours plus tard. Désolé, revenez dans 10 jours, j'ai salopé l'entrejambe. Bon, d'accord. L'entrejambe, c'est délicat. 10 jours plus tard. Navré. Revenez dans 15 jours, j'ai bousillé la braguette. Bon, à la rigueur, une belle braguette, c'est calé. Enfin bref, de faux fil en aiguille, voici Pâques fleurie, commence ce mouvement, hein. Et il loupe les boutonnières. Alors le client excédé, « Godame, sœur, non, vraiment, c'est indécent à la fin. En 6 jours, vous entendez, 6 jours, Dieu fit le monde. Oui, monsieur, parfaitement, monsieur, le monde. Et vous, vous n'êtes pas foutu de me faire un pantalon en 3 mois. » Alors le tailleur, scandalisé, « Mais milord, mais milord, regardez le monde et regardez mon pantalon. » C'était d'après fin de partie de Samuel Beckett.
Bonjour Jacques, ici pour une idée sur la pub imposée aux enfants. Est-ce que parmi nos auditeurs génies de l'informatique, il n'y en aurait pas un qui serait capable d'inventer un appareil qui permettrait de changer de chaîne de télévision chaque fois qu'une pub apparaîtrait? Je crois que là, il y a un trésor de vente garanti pour ceux que le dépôt de brevet intéresse, et une libération pour pas mal de clients dont je serai. Voilà, continuation.
Oui, bonjour, c'est Muriel de Dati dans la Somme. Écoute, je vous appelle parce que je suis vraiment ravie d'avoir entendu cette émission modeste et géniale, n'est-ce pas? C'est tellement vrai que pour certaines populations très privilégiées, tout le monde se mobilise et descend dans la rue. Et pour d'autres, eh bien voilà, la réalité telle qu'on l'a entendue s'affiche et tout le monde s'en fiche. Eh bien, merci encore pour cette émission et d'ailleurs pour bien d'autres. Continue, bon courage. Au revoir.
Oui, bonjour, je m'appelle Corinne, j'ai 50 ans, j'habite un petit village de l'Oise. Et ça a été plaisir d'entendre ce monsieur Ruffin, parce que, donc je pense que je vais acheter son livre, mais je suis élue d'opposition dans un petit village de droite, un petit village d'Astérix. Et j'ai essayé de faire de l'insertion, et je suis parent d'élèves, mes enfants vont à Creil, et je me suis rendu compte que de droite ou de gauche, les élus sont noyés par de bonnes ou mauvaises intentions, mais en tout état de cause, on nie l'individu, on nie le regard qu'on peut porter sur l'autre. Personne ne les écoute, d'homme à homme, je dirais. On nie leur vie, on nie ce qu'ils sont. Et moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je ne me sentais pas en adéquation pour faire ce travail. J'avais l'impression que je bouchais des trous, mais qu'en aucun cas, je n'avais le temps de laisser les gens se raconter, se parler, pour éventuellement avoir envie, non pas de se reconstruire, mais de se construire.
Le social est en deuil à Marseille. Aujourd'hui, la mesure ASI est brutalement supprimée par la DAS des Bouches-du-Rhône. C'était 2700 personnes suivies en 2005. C'est 47 travailleurs sociaux qui perdent leur emploi. Pourquoi? Ce n'est pas son efficacité reconnue par tous qui est mise en cause, ni sa légitimité au niveau national. C'est bien parce qu'elle s'adresse à un public trop démuni, trop désespéré, trop précarisé pour protester que ce choix a été fait. L'appui social individualisé est un accompagnement social et professionnel pour les personnes qui ne sont pas suivies par le droit commun, n'entrant dans aucune case. Ces crédits ont été supprimés pour abonder, paraît-il, le plan banlieue, dit le plan Borloo. La mesure ASI répondait à un besoin social depuis 14 ans. Qui va prendre en charge le public désormais? Le social est une nouvelle fois en deuil. Mais n'oublions pas les 200 000 manifestants la semaine dernière sur les trottoirs marseillais. Merci.
Voilà, quelques messages sur le répondeur de là-bas. Si j'y suis beaucoup pour commenter l'émission d'hier autour du livre de François Ruffin, Quartier Nord, qui sort, je le rappelle, chez Fayard, évidemment. L'auditrice de la Somme, elle est contente comme tout, elle trouve que c'est bien. Mais en général, vous avez trouvé ça passionnant, intéressant. Et c'est vrai que c'est un bouquin absolument formidable. C'est pas parce que François Ruffin travaille pour là-bas, si j'y suis, entre autres. Il a aussi son journal à Amiens, Fakir. Il travaille aussi de temps à autre pour le monde diplomatique. C'est pas parce qu'il travaille pour nous que on va pas en parler. Son livre est un magnifique travail et qui raconte ce pays, et pas seulement la Somme, mais pas seulement Amiens, avec un éclairage particulièrement précis et précieux aujourd'hui pour ceux qui ont envie de comprendre un peu comment ça se passe dans cet hexagone et au-delà. Et voilà des nouvelles du front. Écoutez ça, hier soir.
Bonjour, Philippe Maté. J'étais actuellement avec José Bové, avec un groupe de faucheurs, de gens de la Greenpeace et de la Confédération Paysanne à Trèbes. Vous avez passé le message de José Bové. À l'instant, deux policiers armés, le pistolet à la main, se sont précipités sur sa voiture et l'ont arrêté, ainsi que Francis Roux, en pleine rue de Trèbes, comme un gangster, comme un vrai Far West. Actuellement, nous sommes un petit groupe, nous essayons de rameuter le monde. On considère José Bové, on le traite José Bové comme un dangereux gangster. Cela est parfaitement inadmissible. Donc l'intervention de Trèbes s'est passée dans le plus grand calme et sans aucun problème.
Bonsoir Daniel. Bah écoute, il doit être un peu plus de 23h et voilà-t-il pas qu'on apprend que José est rendu au commissariat. Bah faudrait peut-être dire à José que bah y a pas d'OGM dans les commissariats, faut qu'il sorte. Hein. C'était Chris d'à côté de Guérande. Ciao.
Mais José Bové à la sortie de la gendarmerie de Lunel.
Dans l'audition que nous avons eue, le directeur de Monsanto de Trèves dit qu'il y a eu pour plus de 20 000 euros de dégâts. Alors, j'attends qu'il y ait une expertise contradictoire, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il veut se faire payer avec ces 20 000 euros. Ça me paraît tout à fait singulier. Et je crois que devant la faiblesse de l'accusation, il n'y avait strictement aucune raison de nous garder, c'était quelque chose de tout à fait aberrant. C'est pour ça que je crois que des ordres sont arrivés de la chancellerie pour que cette mascarade se termine.
Il y aura des poursuites et un rendez-vous devant le juge?
Pour l'instant, nous n'avons absolument aucune poursuite. Nous avons tous les deux, Francis et moi, sans nous concerter, déclaré que nous n'avions rien à déclarer. Et donc, les PV d'audition se réduisent à cette simple phrase « nous n'avons rien à déclarer ». Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec ces déclarations. Ça va être renvoyé devant le procureur de Carcassonne. On ne sait pas si on sera un jour convoqué par un juge d'instruction ou quoi, mais en tout état de cause, pour l'instant, on nous a libérés sans aucune convocation devant aucun magistrat.
Voilà, voilà. Alors, si vous avez loupé José Bové à Trèves sur le thème des OGM et des faucheurs volontaires, eh ben, vous le retrouverez. Vous pouvez très bien vous consoler en le retrouvant à Cherbourg ce week-end, ce samedi et ce dimanche. Il y a un grand rassemblement à Cherbourg. Il n'y a pas que José Bové qui viendra, puisque 10 à 15 000 manifestants sont attendus contre la construction d'une nouvelle centrale de première génération EPR à Flamanville dans la Manche. Donc ça commence samedi à 14h, rassemblement, et il y a des événements, des cortèges, des débats, des spectacles, etc. tout ce week-end sur ce thème du non à l'EPR et oui aux alternatives au nucléaire. Les partisans de l'alternative au nucléaire soulignent que, au point de vue énergétique, la France n'a pas besoin d'une nouvelle centrale avant plusieurs décennies. Cette solution n'est pas une réelle solution, remède au réchauffement climatique. Il préconise bien sûr d'autres solutions énergétiques, les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie sont plus créatrices d'emplois que cette voie qui risque de rentrer en application, en réalisation. Et ils indiquent qu'à investissement équivalent, un programme éolien produirait deux fois plus d'électricité et créerait près de cinq fois plus d'emplois que la construction de l'EPR. Voilà, non à l'EPR. Vous pouvez les retrouver sur en vous baladant sur Internet, vous les trouvez très facilement, ou bien vous les retrouverez cette fin de semaine, ce samedi et ce dimanche à Cherbourg. Et bien sûr, à Cherbourg, ce samedi et ce dimanche, on ne manquera pas de célébrer l'anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. C'était il y a exactement 20 ans, le 26 avril 1986, enfin dans quelques jours, à 1h23 du matin, la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait. On se souvient de cette catastrophe, on se souvient de la façon dont les informations sur cette catastrophe ont été euphémisées, c'est peu de le dire. En France, on sait aussi comment Tchernobyl a été aussi à entraîner, à accélérer l'implosion de l'URSS quelques années plus tard, en 1991, parce qu'évidemment il y avait un lien entre l'état de cette centrale et l'état de l'URSS. Mais au-delà de cette conséquence, Tchernobyl a été l'apparition d'une nouvelle terreur dans l'histoire de l'humanité. On peut résumer Tchernobyl ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, on n'a pas de bilan très précis du nombre des victimes de Tchernobyl. Les Nations Unies ont donner un bilan de 4000 victimes qui pourraient être, 4000 personnes qui pourraient être des victimes de Tchernobyl. On n'en sait rien exactement. On sait, bien sûr, parmi les pompiers, parmi les liquidateurs, parmi tous ceux qui sont intervenus dans les heures et dans les jours qui ont suivi, le nombre de morts, parce que ceux-là sont morts. Mais ensuite, les conséquences pour toutes les populations qui ont été irradiées, aussi bien en Ukraine que dans le Biélorussie, ou en Russie, toutes ces populations qui ont été contaminées, il n'est pas possible toujours aujourd'hui d'établir un bilan. D'autant plus que certains pays comme le nôtre, très nucléarisés, ont eu tendance, c'est peu de le dire, à minimiser l'ampleur et les conséquences de la catastrophe. L'URSS également, le Biélorusse aussi et toujours aujourd'hui. Mais au contraire, on a eu des pays comme l'Ukraine qui a exagéré l'ampleur de la catastrophe afin évidemment d'obtenir des aides européennes ou internationales. Si bien que encore une fois, ce qui est particulier à Tchernobyl, on a des mémoires sur nos disques durs hein, qui sont là-bas à l'arrière de nos têtes, de grandes terreurs, de grandes épidémies, les guerres, etc. On a une mémoire de ça qui nous est transmise. Mais Tchernobyl, c'était une terreur nouvelle. Ce qui me fait dire ça, c'est que nous y sommes allés en 1993, il y a 13 ans, et on va retourner, on va entendre à nouveau ce qu'on avait vu et dit à l'époque avec Zoé Varier. On était allés là-bas et on avait senti justement cet indicible, ces choses qui ne se voient pas, qui ne se sentent pas, et qui nous mettent en contact avec notre peur, une peur étrange et sans précédent, un effroi sans précédent. Et là-bas, avec Zoé Varier, on avait rencontré ceux, et plutôt vous allez voir celles, qu'on appelle des samosioles, c'est-à-dire des colons individuels, on pourrait traduire comme ça. Et ces colons individuels sont des revenants, c'est très particulier. Après la catastrophe de Tchernobyl, on a évacué évidemment les populations, d'abord dans une zone très proche, puis ensuite dans une zone de 30 km autour de la centrale. Et
des personnes, surtout des personnes âgées, n'ont pas supporté cette évacuation et sont revenues dans leur maison, leur village, leur hameau. Et on, alors sans aucune infrastructure, sans aucune aide, sans aucune santé, commerce, transport, etc., absolument tenus à vivre dans leur maison, parce que cet exode, cette évacuation forcée pour les personnes âgées, le rappelait 1942, l'exode qui avait été celle des Ukrainiens lorsque les armées allemandes, la Wehrmacht, étaient arrivées dans cette région. C'était pour eux la même terreur. Alors ils n'ont pas voulu être évacués et ils sont revenus, et c'est eux qu'on va retrouver aujourd'hui. Et depuis ces époques, ils sont devenus de véritables cobayes. C'est-à-dire que les observateurs, ceux qui essayent de comprendre les conséquences d'une catastrophe comme celle-là, eh bien, viennent observer ces revenants et ces colons individuels, comme on les surnomme. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé depuis dans cette zone où nous étions en 1993, il y a 13 ans. C'est un développement, puisque cette région est évacuée. C'est un développement extraordinaire de la nature, peut-être dû aux radiations, sans qu'on puisse là non plus établir l'influence réelle des radiations sur la nature et sur l'environnement, mais toute cette zone a fait l'objet de trafic de bois, de bois pour le chauffage, et aussi il y a un essor de la faune dans cette région, si bien que des chasseurs nombreux viennent chasser dans ces régions, et il y a un véritable tourisme nucléaire, cinégétique et scientifique aussi, qui s'est développé autour de la centrale de Tchernobyl et qui fait vivre des agences spécialisées à Kiev. À Kiev, capitale de l'Ukraine, il y a des agents qui se sont spécialisés dans ce type de tourisme tout à fait inattendu. Voilà la balade d'aujourd'hui. Retour, balade assez sinistre, retour à Tchernobyl. Après les messages, que voici encore quelques messages que vous avez laissés sur le répondeur de la base. J'y suis. Au 01 56 40 37 37.
Thomas Christian, j'habite à Colombes, un petit village de l'Isère, un lieu dit les Vignes. Voilà, je suis de plus en plus ulcéré par ce que je vois et ce que j'entends comme message, alors je voulais dire ceci. Nos pleutres élus ont encore cédé face aux roquets fascistes et aboyeurs. L'accompagnement cégétiste de ces derniers a été encadré par les représentants d'une ligne politique qui a fait et fait encore des centaines de millions de malheureux, des millions de déportés et d'assassinés, et aussi d'un parti politique français qui, chaque fois qu'il veut le pouvoir, vote des sucreries empoisonnées qui affaiblissent de plus en plus notre pays. Exemple, 5e semaine de congés payés, les systèmes de pré-retraite, les retraites à 60 ans, les 35 heures pour conclure. Espérons-le d'ailleurs. Continuez ainsi et vous finirez par suivre l'emploi là où il se délocalise. Avec vos idées de fonctionnaires, vous êtes tous de futurs immigrés. Encore un mot sur votre rejet de l'apprentissage. À 14 ans, en 1951, moi, à cet âge-là, j'ai travaillé 3 étés de suite dans un palace de Haute-Savoie pendant 7 semaines, sans un seul jour de repos sur 49 jours, de 6h30 à 20h, avec une demi-heure de pause pour le déjeuner. Et j'en ai été très heureux. Pour beaucoup comme moi, le travail est une valeur cardinale, à l'inverse de nos politiques de gauche qui se font élire sur la fainéantise. Penser qu'une nation industrielle n'est pas un parc de loisirs, où les retraités sont de plus en plus jeunes, les étudiants de plus en plus âgés, les horaires de travail de plus en plus réduits et les congés de plus en plus longs. Alors aux aboyeurs, remplacez vos hurlements par un peu de réflexion. Le bâton, savez-vous pas ce que cela veut dire? Un salarié retraité qui continue par plaisir à travailler vient de vous expliquer ce qu'il ressent. Maintenant, monsieur Mermet, vous faites ce que vous voulez de mon message, vous pouvez rire grassement avec.
Il n'y a pas que les croyants qui croient. Il y a aussi un grand nombre d'athées. Quand on dit « le temps change », c'est les nuages chassés par le soleil, par exemple. Et on peut dire « Inch'Allah, Dieu l'a voulu ». Mais quand on nous dit « les temps changent », Dieu n'a rien à y voir. Il y a des hommes derrière ce changement. Des requins avides d'argent, des multinationales, le G8, des chefs d'État à plat ventre devant ces représentants de la mondialisation. Ce n'est pas une fatalité. On ne nous a pas demandé notre avis, d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le leur rappeler. La France a montré que la jeunesse n'est pas fataliste, que Chirac ne les cassera pas comme Madame Thatcher. Bravo à cette jeunesse qui s'ajoute à notre combat. C'est réconfortant. Et bravo pour votre slogan « Rêve général des étudiants ». Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Polo. Je voulais féliciter et remercier Jean Lassalle, non pas pour ce qu'il a obtenu, mais pour le combat qu'il a mené. Et j'espère que dorénavant, l'humilité au moins atteindra nos hommes politiques pour mener à bien leur combat. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Au revoir.
Bonjour Daniel, je suis Dominique, conseillère à NPE de Nantes. Aujourd'hui, 94e jour de mise en place du suivi mensuel par la NPE. Le contrôle des chômeurs se renforce, ici comme ailleurs. Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu quelqu'un qui travaille comme agent de propreté, tous les jours de 6h à 8h et de 17h à 21h. Il recherche un complément d'heure pour faire un temps plein et atteindre le SMIC. Toutes les offres d'emploi d'agent de propreté concernait le créneau horaire où il est déjà utilisé. Conformément aux décisions prises en Assemblée Générale du personnel de la NPE, je te livre ce témoignage. Au revoir.
Allô, Papy Boufadou, près de Bordeaux. Pour de Villepin, sonnons le glas, et pour Chirac, des profondus. En Corrèze, il va toucher le pisse des vaches. Amen. Pour le décès de la 5e République.
Cher répondeur, je sais, c'est de ma faute. J'avais téléphoné une première fois pour annoncer un débat sur l'amiante. Et en fait, une fois le téléphone raccroché, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur sur la date. Tardard, j'ai laissé un second message, corrigé cette fois-ci. Malheureusement, c'est le premier qui est passé. Donc voici les détails pratiques, cette fois juste. Le débat sur l'amiante aura lieu le mardi 18 avril à 19h30, salle Roussel, à la mairie du 11e arrondissement de Paris, métro Voltaire. Au passage, je profite de ce message parce que j'aimerais dire un énorme merci à toute l'équipe de la Basse IGSU pour la qualité de vos émissions. Voilà, c'était encore une fois Sarah de Paris. Au revoir.
Oui, bonjour, je viens d'entendre les infos, là, à propos du blocage de Toulouse. Blocage reconduit à la suite d'une assemblée générale confuse. C'était houleux, mais c'était pas confus du tout. Et on a une nette majorité pour le blocage, voilà. Donc il faut faire attention aux mots qu'on utilise.
Oui, salut, c'est Bob Dordogne. Le point repère des amis de la bâche, si j'y suis en Dordogne, c'est à Aix-Ideuil. Et c'est au café-resto Le Dracar. Le numéro de téléphone, c'est 05 53 62 96 20. Et voilà, nous serons là à partir de... Nous serons là mardi, à partir de 20h, mardi 18. À bientôt, salut à tous.
263 lettres de soutien ce matin au collège La Charme de Clermont-Ferrand. C'est le résultat de la mobilisation des élèves pour défendre Hussein, un de leurs camarades tchétchènes menacé d'expulsion avec sa mère. Le personnel, les parents d'élèves, les élèves se mobilisent. Alors, une délégation s'est rendue au forum de la femme immigrée aujourd'hui pour interpeller le préfet qui était absent. On a pu prendre contact avec la mairie de Clermont-Ferrand qui va essayer autant que faire se peut de nous aider. Les médias locaux et nationaux ont été informés. Hier, l'ensemble du personnel s'est mis en grève suite à la rétention de la maman d'Hussein à la préfecture. Aujourd'hui, une partie du personnel s'est mise en grève. On a besoin du soutien de tous pour obtenir que Hussein puisse continuer d'étudier en France et essayer de se reconstruire après tout ce qu'il a vécu en Tchétchénie. Voilà. Ciao, ciao.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Bassy, j'y suis avec Zoé Varier. Retour à Tchernobyl. Reportage de 1993. On a pris la route de... Tchernobyl. On va à Tchernobyl. Et c'est superbe. Le paysage est absolument superbe. On retrouve, on se croirait comme dans les chansons ou dans certains films. Des chansons qui nous ont bercés, auxquelles on a voulu croire. Des histoires de grandes plaines d'Ukraine. Et c'est le cas, c'est très beau. C'est l'hiver, tout est gelé. On pense au lointain de Bruegel. Dans les scènes d'hiver, comme ça, on pense tout à fait à ça. On croise le fleuve Dniepr qui est gelé, et c'est superbe. Il y a des gars qui font des trous dans la glace, comme dans les documentaires, et qui sont en train de pêcher. C'est splendide. On se laisse aller, sauf qu'on est dans un endroit absolument catastrophique. Toute cette zone dans laquelle nous allons entrer, les 30 km autour de Tchernobyl, sont contaminés. Alors on est dans cette voiture avec Fyodor, qui est chauffeur, et qui nous conduit, et puis Vladimir, qui est journaliste aux Nouvelles de Kiev, et qui s'est spécialisé dans les conséquences de Tchernobyl. Ça, c'est un monument, c'est une plaque de marbre où, en hommage, il y a des fleurs séchées, gelées, parce qu'il fait très froid, à qui donc ? À un mort.
À ceux qui sont morts, à ceux qui vivent, à ceux qui ne sont pas nés, dans cette nuit que nous n'oublierons jamais, du 25 au 26 avril.
Là, on est sur une route, il fait froid et beau, on voit des villages, des grandes plaines, des bouleaux, des lacs gelés de temps en temps avec des gens qui sont en train de pêcher, qui ont fait un trou dans la glace pour... Enfin, c'est un immense et superbe paysage d'hiver. Sauf que c'est pas une route tout à fait comme les autres, c'est la route de Kiev à Tchernobyl.
Cette route de Kiev à Tchernobyl, après l'accident, faisait penser à une route de guerre.
Двигались огромные нескончаемым потоком шли машины, грузовые в основном машины со всевозможными строительными материалами для тушения пожара.
Sur cette route, il y avait des voitures sans arrêt, des camions, des blindés, des tanks qui passaient en transportant toutes sortes de matériel pour essayer d'éteindre le feu du réacteur numéro 4 et des matériaux pour construire le sarcophage.
Вот этой дороги, по которой мы едем, не было. Ее построили позже, поскольку на дороге было очень много радиации, то вот это специально на Чернобыль построили дорогу.
La route que nous venons de prendre, c'est une route qui n'existait pas juste après l'accident de Tchernobyl. C'est une route qu'on a construite après, parce que la route qui faisait le tour de Tchernobyl était tellement contaminée, tellement irradiée, que c'était dangereux de rouler dessus.
Juste après l'accident de Tchernobyl, il y avait des contrôles sur cette route. C'est-à-dire que on contrôlait le degré de contamination des engins, des voitures particulières, de tout ce qui provenait de la zone qui est interdite depuis. Et les véhicules pouvaient être saisis, des chaussures pouvaient être saisies, des vêtements, etc. Si bien qu'au bord des routes, on voyait des godasses, on voyait des pantalons jetés, on voyait des engins de toutes sortes et des voitures de particuliers. Et alors ces voitures et pas seulement ces voitures, mais aussi bien des camions, des tracteurs, des engins de toutes sortes, métalliques, des techniques, comme on dit en russe, ont été transportés dans la zone interdite et ont été, après avoir été laminés, écrasés par des bulldozers ou des chars, ont été enfouis sous des sarcophages, sous des tombes de béton. On a manqué de béton, c'est insuffisant évidemment, sans doute, mais c'est extraordinaire de penser que c'est des sortes de tombeaux des technologies, tombeaux des techniques, tombeaux du progrès. Tombeaux du progrès et par là même tombeaux de la religion communiste qui reposait sur cette mystique du progrès.
«
когда сильный ветер, во время сильного ветра, вот этот колокол начинает от ветра раскачиваться и звенеть, как напоминание человечеству. К атомной энергетике надо относиться очень осторожно.
Vous voyez là, en haut des escaliers, vous avez un monument avec une cloche. C'est le monument en mémoire du premier pompier qui est mort suite à l'accident de Tchernobyl. Quand il y a du vent, cette cloche sonne. Et cette sonnerie, c'est pour rappeler aux hommes qu'il faut toujours faire attention avec l'énergie atomique et que beaucoup d'hommes sont morts à cause de cette énergie.
Bouquet de fleurs. Là, c'est bien sobre ce monument, mais il y a des fleurs quand même. Quelqu'un a piqué le battant de la cloche. C'est le toxin de Tchernobyl. Un bouquet de fleurs, un bout de bois brûlé.
Предупреждение человечеству.
C'est l'avertissement que nous faisons à l'humanité.
De cette zone autour de Tchernobyl. Cette nature que nous avons apprivoisée, réduite, dominée, tout d'un coup, dans cette zone-là, nous en sommes bannis. Bannis de cette zone. Interdite. Nous sommes entrés dans cette zone interdite. On passe une étrange douane, un checkpoint très particulier, où nous sommes pris en charge par un service du ministère de Tchernobyl, du ministère qui s'occupe auprès du gouvernement, dans le cadre du gouvernement ukrainien, des questions de Tchernobyl. Notre chauffeur, Féodor, qui avait promis qu'il viendrait avec nous pour retourner dans cette ville de Pripyat, les roses de Pripyat dont il nous a parlé, et bien tout d'un coup, le courage lui manque et il préfère nous attendre à la douane. On part avec donc ce véhicule et on entre dans la zone interdite, dans la zone des 30 km. Et là, ce qui se passe, c'est que les hommes ont été bannis, mais pas les femmes, peut-être. Ce que vous entendez, les rires de ces femmes, ce sont des femmes qui sont revenues. Toute la zone a été évacuée autour dans les 30 km autour de Tchernobyl. Des centaines de milliers d'habitants qui étaient là ont été évacués rapidement, pas assez rapidement, souvenez-vous. Mais certaines plutôt, ont absolument tenu à revenir en dépit des plus formelles interdictions. On compte à peu près 700 personnes qui vivent dans cette zone interdite aujourd'hui. On les appelle les Samasioli, ça veut dire les autochtones, les gens du pays. 700-720. Depuis seulement un an, enfin, les autorités ont reconnu qu'il fallait quand même s'en occuper de ces gens, en dépit du fait qu'ils enfreignaient les lois. Alors on leur a ramené de l'électricité, chose dont ils étaient dépourvus, et de temps en temps il y a des services. On leur apporte 2-3 bricoles, on s'occupe d'elles. C'est dans un de ces villages qui s'appelle Obachich, qu'on a rencontré, ces joyeux fantômes, étranges situations imaginées, des villages, villages superbes, abandonnés, les maisons, les dachas s'écroulent, le lierre se gagne tout, c'est une sorte de friche, les maisons s'écroulent, c'est l'hiver, c'est gelé, et au bout d'un chemin défoncé, il y a ces mémés qui sont là et qui nous regardent venir.
Ah, les dames qui vivent là.
На голову. У нас холодно.
Люди фрозят.
Так, а чем вы интересуетесь?
Да, спасибо чужим людям и вихранте их. Спасибо вам.
Merci à vous.
За посылочки, спасибо.
Merci. Merci d'être venu.
Она видит, она меня.
Или меня.
Ну, что вам рассказать?
Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on vous raconte?
Comment vous vivez? On va savoir comment vous vivez ici.
Радую в том, что мы живем у своих домах.
Nous sommes contents de vivre ici parce que nous vivons dans nos maisons à nous.
Et c'est pas dangereux?
Уже нам ничего не опасно.
Pour nous, plus rien n'est dangereux.
Bonjour. Elle se demande qui on est. Ah là, ça parle plus russe, ça parle ukrainien là.
On va aller dans sa maison.
Ah oui, il fait trop froid dehors.
On
va à la maison. Allez.
Donc,
la bouche cale sans vêtu de vieille fringue. Bottes de cuir de l'armée, les capotes défoncées, les châles, les foulards bleus. C'est un froid. Les joyeux fantômes de Tchernobyl rentrent dans la maison de la dame. Il y a un cadenas à sa porte. Les survivants ont le sens de la propriété. On entre. On entre dans sa maison, il fait chaud. Et voilà la maison. La maison encore vivante, encore survivante. Alors on dit qu'on parle un dialecte ici. Oh, les poupées. Il y a des jolies poupées, il y a des jolies icônes. Ici, il y a toute l'histoire de la famille. Toutes les photos de la famille. Et puis les icônes. Et voilà, c'est comme ça qu'on vit.
Vous connaissez
ce que vous voyez là?
C'est quoi?
Спаситель. Иисус Христос.
C'est Jésus-Christ, notre sauveur. C'est lui, il est là.
Да.
Et ça, c'est toute votre famille?
Это дочка.
Ah, ça, c'est ma fille. Vous voyez, là, elle est dans sa robe de mariée.
Чернобыль, в зеленом місці робила, и в Чернобыль ездили от этого одежи, а потом в Чернобыль она...
Elle vivait à Tchernobyl, maintenant elle habite à Kiev, ma fille. Son mariage a eu lieu à Tchernobyl. Et là, vous voyez, ça c'est mon petit enfant, ma fille, elle a eu un petit garçon. Vous le voyez, ça c'est mon petit-fils. Là, vous voyez la photo, là, c'est mon fils, quand il était à l'armée.
Il y a une belle photo près de son puits.
Mon fils est mort il y a 3 ans. On l'a tué il y a 3 ans. Il y a des voyous qui l'ont tué dans la rue.
Ah.
Oui. On était là, on était ici, on était à la maison. Après, c'est seulement après qu'on nous a dit qu'il y avait eu un accident dans la centrale atomique. Et alors, il y a eu plein d'autobus qui sont arrivés. Et ils nous ont emmenés. On nous a emmenés le premier jour de Pâques. On nous a fait monter dans les autobus. On nous a mis dans les autobus comme ça. On nous a dit qu'on allait être évacués seulement pendant 3 jours et qu'après on pourrait revenir chez nous.
никто не хотел, никто насилой заставили.
Не de force, on nous a fait monter de force dans les autobus. Personne de nous ne voulait partir, ne voulait monter dans ces autobus. Personne ne voulait s'en aller.
De force, c'est-à-dire qu'on vous a attaché, on vous a...
Було не в нашому селі, а там сусідні є села були, що навіть повибивали старикам зуби.
Здесь не все люди понимали, що здесь нельзя оставаться, і многие не хотели уезжать.
Tout le monde n'a pas compris qu'ici les conditions de vie étaient réellement devenues dangereuses et certains habitants ne voulaient pas partir, mais la milice avait des ordres et devait évacuer absolument tous les villages, personne ne devait rester. Donc il y a eu des moments où la milice a dû utiliser la force. Il y a eu des cas dans le village d'à côté où des vieux ont eu des dents cassées, ont été abîmées au moment de l'évacuation.
Donc vous, vous êtes parti.
На, да, нас вивезли в Макаровський район. Зразу поселили у село.
On nous a emmené, on nous a emmené dans un autre village, puis on a vécu un peu là-bas.
Combien de temps?
Месяцев три було, да.
On a vécu là-bas pendant trois mois à peu près.
В общем, ми так попали в рабство там. Рабили людям, а ті хазяїни плохо відносились.
Les gens chez qui on vivait se sont mal comportés avec nous. On était comme des esclaves. On travaillait, mais on ne donnait rien à manger. Ils ne donnaient pas coucher, да?
Люди относились хозяева относились по-разному. Да. Были хорошие люди, которые понимали, что это люди попали в беду.
Il faut comprendre que les réactions par rapport à la population qui a été évacuée de la zone interdite, les réactions des habitants dans les autres villages n'étaient pas forcément toujours la même. C'est-à-dire que certaines personnes comprenaient que c'était des gens qui avaient subi un accident terrible, mais d'autres pensaient que c'était des gens qui étaient dangereux pour leur santé.
Donc il y a eu un rejet, une sorte de presque xénophobie vis-à-vis des tchernobylisés.
Были разные люди, и многие боялись этих людей, боялись, они боялись радиации.
Ils avaient peur qu'on les contamine, qu'on les irradie. Ils avaient peur de nous. Et nous, on avait envie de revenir dans notre maison, à nous, chez nous.
Même si on doit mourir ici.
Tout toko tout umirat, nikuda, ne, Bože spasi.
Ici que je veux mourir, il y a qu'ici que je veux mourir, c'est ici que je mourrai.
Там лежава камінь до мармуровий, я на тієї же до мармурення. Кром пенсії, і все. Нам помочі нема ніякої. Кром пенсії.
On a juste notre retraite. C'est tout ce qu'on a. On nous donne aucun argent, aucune compensation.
C'est-à-dire, combien vous avez d'argent pour votre retraite?
Я получаю 115.
Je touche 150 000 coupons par mois.
Менее 4 долларов, да?
C'est moins de 4 dollars. Ça fait moins de 4 dollars.
Alors, comment vous mangez? Comment vous faites pour manger?
А ми картошку сіємо своя.
Nous, on a planté nos pommes de terre.
Огурчик свой, капуста своя.
On a planté nos корнішон. On a planté nos choux.
Кром хліб это купляємо, сахар.
Nous achetons seulement
notre pain. Ну, якщо брати масло, так нам пенсії не хватить.
Mais on peut pas s'acheter de beurre, par exemple. Parce que rien que pour s'acheter du beurre, notre retraite ne suffit pas.
Est-ce que vous avez un contrôle médical?
Врач єсть, медпункт називається. Ну, щоб пойти взяти порошка оцієї башки, то ми його ніколи не бачимо.
C'est sûr qu'ici, il y a un endroit où il y a des médecins, où il y a des infirmières, mais là-bas, ils ont même pas un comprimé pour que nous soigner le mal de tête.
Depuis combien de temps avez-vous vu un médecin?
Да.
А в Чорнобиль не можемо заїхати.
А Чернобыль автобусы идут,
когда
не берут.
Когда бывает, кто-то заболевает, то надо ехать в Чернобыль в больницу. А транспорта здесь такого нет, рейсовых автобусов здесь нет.
Вы comprenez, quand on tombe malade, il faut qu'on aille à Чернобыль, parce que là-bas, il y a un hôpital. Mais il n'y a pas de transport pour aller jusqu'à Чернобыль. Donc, on ne peut pas aller à l'hôpital quand on tombe malade.
Donc, actuellement, vous ne pouvez pas savoir... Et personne ne s'inquiète de savoir si vous êtes contaminé. Personne ne s'en inquiète.
Проверяли, приезжали иностранцы чужие и приезжали, проверяли всех.
Si, il y a des étrangers qui sont venus nous voir et qui nous ont regardés pour voir comment on allait. Et ils étaient super, ils étaient comme ça.
D'où ils venaient ces étrangers?
À куда они были?
Були багато. Улітку проверяли даже і
давление.
В Японії
були
последні
раз. C'était des Japonais. C'était des Japonais. Et ils nous ont regardés partout, là. Ils étaient bien.
Quand est-ce qu'ils vous ont regardé?
Когда они на вас смотрели?
Улетку.
Cet été, ils nous ont vus.
До пожара, по-моему.
Avant le feu, avant l'incendie, ils nous ont vus. Да?
Il y a eu un incendie cet été. C'est pour ça que les arbres sont morts. C'est parce qu'il y a eu un incendie cet été. Est-ce qu'ils vous ont dit que vous étiez en bonne santé?
Давление и мерали ж, як то воно називається. Твоїм здоров'ям доживу до останнього года.
Ils m'ont pris ma tension, ils m'ont regardé les jambes, la circulation du sang et ils m'ont dit que j'étais en très très bonne santé et que je vivrais jusqu'au dernier jour de ma vie.
Jusqu'au dernier jour? Mais c'est quand?
Peut-être que c'est demain.
Moi j'ai noche ou moi j'ai nuit.
Peut-être cette nuit.
Alors vous n'avez pas peur d'être malade?
Niet.
Non, j'ai pas peur.
Niet. Niet.
Le monde entier a peur. Quand on dit le mot Tchernobyl, le monde entier, sauf vous, vous n'avez pas peur.
Есть така пословица: не столько було правди, сколько випустили брехні. Не такий чорт страшкий, як. Да, як його малюють. От так. Тут приїжджають другі іностранці, так як оцей ви, улітку, от як сади цвіли. Тут такий воздух, вони уходять і кажуть, що дихання чисте, є з чим жити.
On a un dicton qui nous dit qu'il faut pas avoir peur du diable, il faut pas avoir peur de l'image du diable, de la représentation du diable. Ici, l'air est pur, la nature est belle, il y a des beaux fruits.
Tchernobyl, c'est le paradis.
Tchernobyl, c'est le сердце наше в груди.
Mais Tchernobyl, c'est notre cœur, dans notre poitrine. Pour nous, c'est notre paradis. C'est notre paradis.
Не дивиться. Ой,
я тобі розказую.
Так.
Mais c'est pas un peu triste de vivre dans un village comme ça où tout le monde est parti?
А нас хоч би було й 5, де ми тут жили.
Même si on n'était plus que 5 ou que 2 ou 3 personnes à vivre ici, on resterait vivre ici parce que ici c'est notre terre natale.
От заберіть нас до себе заберіть.
Emmenez-moi avec vous en France. Emmenez-moi. Moi, je viendrai pas. Même en France, j'irai pas avec vous.
Même en France?
Là, je vais en France. Non,
non, non. Только тут.
Non, même en France. On reste là, ici.
Et vos enfants viennent vous voir? Vous avez de la visite?
Да, приезжает дочка. Да, и с внучками, и с зятем.
Ma fille vient me voir avec mon petit-fils.
Берут и кушают те, что я кушаю, и они в Киев берут да кушают.
Ils viennent ici, ils mangent ce que je cultive, et même ils ramènent ce que je cultive à Kiev, ils ramènent de la nourriture à Kiev.
Потому что в Киеве сейчас что взять можно? А у мамы все есть в зоне.
Ils prennent les pommes de terre, ils prennent ce que je cultive, parce qu'à Kiev, qu'est-ce qu'il y a dans les magasins? Avec quel argent on peut s'acheter ce qu'il y a à Kiev? Alors ils prennent ce que j'ai moi ici.
Mais quand même, les gens ont peur de venir jusqu'ici. C'est une zone interdite. Vous êtes dans un ghetto, vous êtes comme enfermé.
За проволокою, то між загороженням є точно тюрма німецька, ота проволока.
C'est sûr, la zone interdite, elle est fermée. Et puis, il y a des barrages pour rentrer dans la zone interdite. Et ça nous fait penser à un peu à des camps, aux camps qu'il y avait pendant la guerre. Mais sinon, on est libre. On peut partir d'ici. On peut aller à Kiev. Ça, c'est pas un problème. On est libre quand même.
Mais justement, ces dangers en question, est-ce que tu peux nous décrire les dangers encourus? Que risquent ces gens?
Раньше считалось, что человек может заболеть только лучевой болезнью, которая вызывала заболевание крови.
Avant, on pensait que les personnes qui avaient été contaminées auraient avant tout des maladies de sang, leucémie et autres.
По прошествии нескольких лет ученые, проанализировав заболевание, пришли к выводу, что радиация может вызывать любые заболевания любых органов. И
les savants, сердце, ces dernières années, on fait des recherches plus sérieuses et on s'est rendu compte avec le temps que les radiations, justement, pouvaient atteindre n'importe quel organe du corps.
Jusque-là, on pensait que seules les populations qui étaient restées longtemps exposés à ces radiations ou avaient vécu durablement dans ces conditions, encouraient les risques que tu décris, leucémie, etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, en fait, même à la suite d'une exposition courte, on peut, on risque les mêmes choses.
On s'est rendu compte que des petites doses de radiation étaient néfastes pour la santé, mais que pour que les maladies se déclarent, il faut attendre entre 7, 8 et 10 ans, entre le moment où on a été irradié et le moment où on commence à déclarer une maladie.
Это я к тому, что вот бабусям очень сложно сегодня судить о том, вредно или полезно жить в селе Апачичи. Вот пройдет еще несколько лет, и первое проявление, болезненное проявление от малых доз радиации не исключены.
Si pour l'instant toutes les dames qui sont là autour de nous vont bien et sont en bonne santé, ça ne veut pas dire que d'ici quelques années, même si on pense que ce village-là n'est pas contaminé particulièrement, ça ne veut pas dire que ces femmes n'auront pas dans quelques années des symptômes de maladie due à une petite dose de radiation. Ça, on n'en est absolument pas sûr pour l'instant.
Mais quand même, c'est complètement fou de rester ici. C'est trop dangereux, c'est très très dangereux de rester ici.
До нынешнего года в зоне проживания было категорически запрещено, и все они проживали здесь подпольно, нелегально и противозаконно. До нынешнего года.
Il faut savoir que jusqu'à cette année, il était interdit de vivre ici dans la zone interdite, et que toutes ces femmes que vous voyez autour de vous sont rentrées clandestinement dans la zone et vivaient de manière clandestine.
Et maintenant, elles sont reconnues.
Принято решение правительства о их прописке здесь, на окраине, на границе зоны, и они получили статус пострадавших. Соответственно, получают пенсию и определенные льготы.
Cette année, le gouvernement a voté une loi pour que ces personnes-là puissent avoir le statut de victime et qu'elles puissent rester ici, sur la zone interdite, qu'on accepte qu'elles vivent ici, et elles touchent une pension, elles touchent une retraite et un petit peu d'argent.
Но моя точка зрения.
C'est pas ce qu'elle a dit la dame. Hein? Vous n'êtes pas d'accord avec la dame là. La dame a dit qu'elle ne touchait aucune prime particulière de victime. Compensation ou pas compensation? Vous touchez des compensations ou pas? Elles sont là, on peut leur demander.
Ah.
Il devrait. On a voté une loi pour qu'elles touchent une pension plus une compensation, mais elles n'ont pas encore touché les compensations. Normalement, ça devrait venir à la fin de l'année.
Ah, normalement.
Voilà.
You did it.
Mais Tchernobyl, c'est notre cœur dans notre poitrine. Pour nous, c'est notre paradis.
C'était en 1993 que sont devenues aujourd'hui, 13 ans plus tard, les joyeuses commères de Tchernobyl. C'est une question. En tout cas, c'était un reportage de cette époque avec Zoé Varier. Donc, 20 ans après Tchernobyl, demain à Cherbourg, une manifestation contre la relance du nucléaire, forum, concert, projection, théâtre. Et c'est samedi et dimanche à lire. Il y a beaucoup de bouquins qui sortent et qui ressortent sur ce thème. Tchernobyl, retour sur un désastre de Galia Ackermann chez Buchet-Chastel, crime de Tchernobyl ou le goulag nucléaire de Tchertkov ou Vladimir Acte Sud, beaucoup de bouquins sur ce thème, en mémoire des 20 ans de la tragédie de Tchernobyl, un CD initié par Greenpeace dont la sortie est prévue pour le 1er juin 2006. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui Rémi Quincez et Patrick Henry, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, bien évidemment, assisté de Pascal Pascariello et Raphaël Moutarde pour le répondeur. Je rappelle les admiratrices de Christophe Imbert, il est de repos et il sera là la semaine prochaine, mais le numéro du répondeur reste le même, c'est le 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission c'est daniel.mermet@radiofrance.com réclame.